Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre énervé qui voit double chaque soir cette année. Je vous explique encore une fois, ça commence à 18h sur franceinter.fr en podcast. Ça recommence 22h minuit à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, l'aventure, c'est l'aventure avec Véronique de Viguerie, photo-reporter de guerre, Visador News pour son reportage au Yémen en 2018. C'est elle qui signe cette année l'album Reporters sans frontières, sans photo pour la liberté de la presse, les talibans en Afghanistan, les pirates en Somalie, les sicarias en Colombie, le monde des conflits et votre terrain. Véronique de Viguerie, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un aventurier samouraï, un explorateur engagé, un aviateur, un marin, un écrivain, c'est Patrick Franceschi. On l'a connu engagé auprès des Kurdes. Il revient avec 8 nouvelles qui prennent le chemin de la mer chez Grasset. Au programme, des condamnés à mort, un acteur nain qui prend de la hauteur, des enfants plongés dans l'enfer d'une vie familiale et le récit d'un voyageur qui aura mis du temps et traversé des épreuves avant de trouver son chemin. Faut-il y voir une métaphore ? Oui. Patrick Franceschi, bonsoir.
Merci, bonsoir.
Voyage avec vous aussi sur Solo pour l'Afrique en solo, la chronique, on est mercredi. Vous nous emmenez où ce soir ?
Je vous emmène, je dois dire, je vous propose de traverser l'eau, comme on dirait à Abidjan, et c'est pour aller à Londres pour retrouver le Burundais J.P. Bimeni et son groupe les Black Belt qui ont présenté leur nouvel album « Free Me ».
Pendant ce temps-là, Fabrice, Patrice fait sauter le bouchon.
J'avais soif, je sais qu'on va parler pendant une heure.
Sans ça, c'est ça.
Pendant une heure, je me prépare avec une boisson, j'ai le livre de Véronique de Viguerie
tout
devant
prêt.
Moi pour faire connaissance, j'ai tout ce qu'il faut.
Parfait. Dans le énervé de la suite, cinéma d'animation pas si minuscule après le succès à Cannes de J'ai perdu mon corps, Benoît Lagan.
Oui, à 10 jours du festival d'Annecy et au lendemain du festival de Cannes, le énervé s'anime ce soir en deuxième heure avec, pour en parler, cinéma d'animation français, le producteur de Minuscule, le du cinéma d'animation, Philippe Delarue, l'animateur-réalisateur Jérémy Clapin, donc récompensé à Cannes pour son film J'ai perdu mon corps, grand prix du Semaine de la Critique, une femme qui s'anime, Patricia De Wild, et une journaliste très animée, Guillemette Audicino.
Ben c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on part sur le terrain avec vous deux qui avez en commun l'expérience des conflits, des luttes armées. Véronique de Viguerie, photoreporter de guerre, et vous, Patrice Franceschi, explorateur, aventurier, écrivain. Vous vous connaissez l'un l'autre ? Ou l'une l'autre ?
Pas du tout, non. Mais je fréquente pas beaucoup les journalistes. Hormis vous
Mais elle n'est pas journaliste ! Photoreporter, c'est autre chose. Autre chose que journaliste.
Témoignent. Ouais. Parce que je me place du côté d'autre chose qui est l'action. Et la frontière, pour moi, est infranchissable, en réalité. Voilà pourquoi si vous voulez, le monde de la presse est un monde avec qui on travaille, etc., mais qui est un monde de témoins absolument essentiels. Et se battre pour la liberté est fondamental. Mais l'engagement, l'aventure, etc., et la participation au conflit, c'est encore autre chose.
Ça, c'est autre chose. Vous êtes sur le terrain, mais de deux côtés différents. Premier reportage, c'était en 2004, l'Afghanistan pour vous, Véronique de Viguerie.
Oui.
Dernier reportage.
C'était au Brésil, il y a un mois et demi.
Pour voir qui ? Pour voir quoi ?
En Amazonie, pour voir les femmes indiennes qui essayent de défendre la forêt du nouveau président Bolsonaro. Et dans les favelas pour le carnaval off, le carnaval avec les gangs.
Et alors, ça s'est bien passé ?
Pas mal.
Les photos vont sortir où ? Parce que c'est
alors,
toujours ça le problème.
Celles du carnaval sont déjà sorties dans Paris Match et les autres sont, je crois, dans ce mois-ci dans Marie-Claire.
Parfait. Dernier voyage pour vous, Patrice Franceschi ? C'était en quoi ? En avion ? C'était en bateau ? C'était où ?
C'était les Kurdes et demain matin encore les Kurdes.
Vous repartez ?
Oui, demain matin, oui.
Vous repartez où exactement ?
Au Kurdistan de Syrie, enfin via le Kurdistan d'Irak. Et mais pour quelque chose dont je parlerai au retour, mais qui fait partie justement des engagements, des participations et du combat pour certaines idées ou certaines situations ou certains peuples. Je suis engagé auprès des Kurdes de Syrie depuis le début de la guerre. Et ce sera jusqu'à la fin de la guerre, et contre l'État islamique et les ennemis qui les environnent et qui sont tous, comme l'État islamique, des ennemis aussi de notre pays. Et les liens de sécurité entre les Kurdes et nous sont identiques. Voilà pourquoi d'ailleurs on les aide depuis 5 ans. Et raison pour laquelle il faut continuer. Voilà.
Vous connaissez bien le terrain, le Kurde, justement, Véronique de Viguerie. Vous avez placé le reportage sur les combattantes kurdes au centre même de cet album. J'ai vérifié, c'est vraiment le centre pile. Et même en couverture, vous pouvez nous décrire la couverture, ce qu'elle représente
Et alors, qui ?
La couverture, c'est une peshmerga kurde dans le Kurdistan irakien. Qui est une dame qui a l'air un peu plus vieille que ce qu'elle n'est, mais elle a 34 ans et elle est en train d'allaiter son enfant avec sa kalachnikov posée à côté d'elle.
C'est une combattante ?
C'est une combattante, oui. Et elle représente pour moi, en fait, surtout à cette époque-là où je venais d'accoucher de ma petite fille. Et tout le monde me disait, allez, ça y est, maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas un petit peu te poser et tout ça. Et je trouve que, dans cette photo, on voit que, on peut faire les deux. C'est pas parce qu'on est une combattante qu'on peut être une mère et vice-versa.
Tous les deux, vous avez aussi en commun l'Afghanistan. Vous y êtes partie quand ? Beaucoup plus tôt que Véronique de Vigry. Véronique de Vigry, c'est au début des années 2000, c'est ça, hein ?
Moi, je suis partie en 2003 et je suis restée jusqu'en début 2008.
Alors, pour faire très vite, je ne connais pas cette guerre d'Afghanistan qu'a vue Véronique de Vigry. En revanche, j'étais engagé pendant 12 ans dans la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques. Ouais. De 1979, un mois avant l'invasion soviétique exactement, aux côtés du commandant Mohamed Amin Radek, jusqu'à la libération de Kaboul. Donc j'ai vu Kaboul tomber aux mains des Soviétiques et participer au fait qu'elle redevienne libre. En 1992, par la suite, j'ai abandonné ce terrain, mais pas mes amis kurdes, mes amis afghans, simplement parce que la guerre a été perdue dans tous les autres sens du terme, jusqu'à la guerre suivante, celle des Américains, qui était encore pire au niveau de l'échec que tout ce qui avait précédé. Donc l'Afghanistan, pour moi, est un terrain de drame. J'ai combattu en Afghanistan auprès des maquisards et pour moi des années dans les montagnes. Et ce que je vois de l'Afghanistan par les journalistes aujourd'hui ne m'engage absolument pas à y retourner. Voilà, il y a des échecs dans la vie ou dans la guerre et dans les drames de la condition humaine qui sont un état des lieux de la planète. En revanche, le commandant Amin Wardak est toujours actif, toujours là. Et pour tout vous dire, il m'a laissé un message hier rentrant d'Afghanistan à nouveau pour voir ce qu'on peut encore faire éventuellement dans la situation, car il y a des négociations entre les Américains et les talibans à Doha en ce moment, auxquelles ils participent. Voilà, donc pour moi l'Afghanistan c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'était la grande affaire de ma vie quand j'étais très jeune, j'avais 25 ans, et d'avoir été aussi près, aussi proche de cette guerre contre l'Union soviétique à l'époque, m'a toujours fait dire, et je l'ai écrit dans un de mes romans, Un capitaine sans importance, que s'il n'y a pas de guerre propre, il y en a de plus sales que d'autres.
Vous arrivez à quel moment ? Véronique de Vigry, en Afghanistan, c'est votre premier grand reportage ?
Moi, c'est mon premier grand reportage. C'est là que je me suis faite. Enfin, c'est l'Afghanistan qui m'a faite. Je pars pour 3 mois et finalement, j'y reste 3 ans.
Et vous allez y revenir régulièrement ?
Oui, j'y reste. Ouais, j'y ai vécu pendant 3 ans et demi et j'y reviens régulièrement. Et moi, j'arrive après 2001. Donc, j'arrive dans l'autre guerre et dans un contexte un peu particulier parce que on prépare les premières élections démocratiques en Afghanistan qui ont lieu en 2004. Donc, c'est hyper dynamique. Tout le monde y croit. On croit que c'est la fin de ces guerres, que le pays va enfin, les Afghans vont vivre en paix. Et c'est très intéressant. Et nous, on est tous les expats, on est très bien accueillis, on est invités partout. Et depuis, ça a beaucoup changé, effectivement.
On va y revenir. Vous avez pris les armes donc en Afghanistan. C'est ça que vous nous disiez, Patrice.
J'étais engagé auprès des Afghans, mais dans tous les sens du terme. Parce que prendre les armes ou entraîner ou former des bataillons, des choses comme ça, c'est qu'une
fils de militaire. Hein, je rappelle que vous étiez.
Et moi-même, toujours officier de réserve. Voilà. Mais la problématique, c'est pas seulement ça. Ça fascine en France prendre les armes, mais c'est
le commun. Plus que ça, ouais.
Non, mais c'est le commun des choses dans les combats. En revanche, les guerres, c'est le cas des Kurdes aujourd'hui, ont des dimensions politiques et diplomatiques essentielles. Parce que gagner les guerres, on sait faire. Gagner les paix, on ne sait pas. Et par conséquent, un engagement, s'il est cohérent, s'il veut être efficace, surtout à un petit niveau individuel, doit embrasser l'ensemble des nécessités que demandent les guerres, et notamment le politique et le diplomatique. Sinon, l'art militaire ne sert à rien du tout. Ce sont des engagements complets qui, moi, m'intéressent, plutôt que des engagements à moitié ou qui ne font qu'une petite part des choses. Chez les Kurdes, c'est pas la peine qu'un occidental prenne les armes. Ils ont tous les combattants qu'il faut. En revanche, sur les aspects politiques ou diplomatiques, il y a tellement de choses à faire que c'est souvent là qu'il faut se concentrer.
Votre père était parachutiste ?
Mon père était officier parachutiste et il a commandé le 1er Arpaïma, par exemple, et qui était des forces spéciales. Et Il se trouve que je lui parlais tout à l'heure au téléphone, parce que avant de repartir en Syrie, et voilà, il a terminé général de la République.
Vous vouliez être parachutiste aussi, Véronique de Vigré?
Oui.
Ah bon?
Parachutiste.
J'ai connu quelques
c'est
femmes parades dans l'armée, oui, bien sûr, il y en a.
Vous avez j'ai changé d'idée alors. En cours de route.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a résisté?
En fait, je me suis dit que l'armée, à tout bien y réfléchir, peut-être c'était pas vraiment pour moi.
C'est vrai?
Oui. Il bah, y a quand même l'aventure, voyager, découvrir d'autres mondes et tout ça, c'est un peu commun, mais après, je pense que photo-reporter, en fait, ça me va mieux.
Ce qu'il faut demander à quelqu'un pour l'armée ou des choses comme ça, c'est qu'est-ce que ce n'est pas, au-delà de ce qu'on imagine. C'est une somme de contraintes, de sacrifices et d'abnégation. Il faut consentir à beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'ai pas non plus fait l'armée de manière active.
Eh ben voilà. Vous avez ça aussi en commun. On vous a demandé des sons pour faire plus amplement connaissance. Ça commence par un son spirituel, Véronique de Vigré.
Religieux, je dirais. Plutôt que spirituel.
Qu'est-ce que cet appel à la prière représente pour vous, Véronique de Vigré, pour l'avoir choisi comme son introductif?
En fait, si j'entends ça, ça veut dire que je suis en reportage. Et quand je suis en reportage, je suis toujours bien.
Et le reste du temps, ça va pas?
Si, mais ça, c'est particulier. Ça veut dire que je suis au Moyen-Orient. Non, j'aime bien, c'est apaisant, je trouve.
Vous avez fait plusieurs pays, il n'y a pas que le Moyen-Orient d'ailleurs dans l'album de Reporters sans frontières.
Non,
c'est là où vous vous sentez le plus à votre place de
photographe. C'est là où j'ai passé le plus de temps et c'est là où en fait les conflits ou les problématiques m'intéressent le plus. Et c'est aussi là où je me sens plus proche des gens.
Un son qui vous est familier, Patrice Franceschi? Un son de conflit, un son de guerre, un son que vous connaissez aussi, Véronique de Vigré. Pour vous,
alors,
Patrice,
pourquoi, quand vous m'avez demandé trois sons, pourquoi j'ai choisi de manière extrêmement... J'ai réfléchi un moment avant de choisir un son de guerre.
J'imagine.
C'est qu'à la longue, j'ai passé l'essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne et très engagé dans beaucoup de guerres en révolution, etc. Et au final, la guerre au début m'apparaissait comme une anomalie dans la représentation humaine que je pouvais avoir. Et je suis arrivé à la conclusion finale, en tout cas aujourd'hui, et c'est peut-être une partie de ma formation de philosophe politique qui... le vœu, en même temps que mon expérience de terrain, c'est qu'au fond, et c'est ça reviendra, vous verrez tout à l'heure dans le livre de nouvelles qui paraît chez Grasset, qu'au fond, la guerre fait intimement partie de la condition humaine. Comme la maladie, comme la mort et ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose de hors de l'homme, et c'est donc extrêmement tragique de le constater et de le dire. Ce n'est pas quelque chose dont on se débarrassera comme cela, et je pense que nous, occidentaux, qui habitons la part protégée du monde, qui depuis 70 ans sommes préservés de la guerre, contrairement aux générations d'avant, qui ne l'ont jamais été pendant des milliers d'années, on n'a plus cette perception de la guerre, telle que je viens de la dire. La guerre, c'est...
Même si quelquefois, elle est à quelques kilomètres de chez nous. Oui,
on n'a pas cette perception, parce qu'elle n'est pas chez nous.
Ouais.
Et par conséquent, on la voit comme quelque chose qui concerne les autres, ou qui concerne d'autres temps, ou qui se voit à la télévision, ou dans les reportages de personnes comme Véronique de Vigré. Et non pas quelque chose qui, au fond, fait partie de notre condition et va nous arriver. Et voilà la raison pour laquelle j'ai voulu choisir un bruit de guerre pour dire cette chose-là, qui est épouvantable en elle-même, mais il ne faut pas être dans le déni, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que je pense que les orages de l'histoire se rapprochent. C'était la thématique du livre précédent.
Véronique de Vigré, vous êtes d'accord avec ça? Vous qui passez la plupart de votre temps justement dans des conflits?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est vrai qu'on a oublié que... C'est presque la guerre, il y en a toujours eu, il y en aura probablement malheureusement toujours.
Mais vous êtes toujours au centre de ces guerres-là. Alors on vous a demandé un autre son, vous avez choisi quelque chose de très familial.
Elle a mis ses mains sur le soleil, du fond de son berceau sans frontières. C'est une fille au sans visage, tantôt folle et tantôt sage, tantôt bleue.
Que c'est cette chanson européenne? Ça représente quoi?
En fait, c'est mes deux petites filles qui sont tombées en pâmoison en écoutant cette chanson et qui me la demandent tout le temps. Donc, je dois la mettre dans la voiture, je dois la mettre le matin pour se réveiller. Enfin, bon, bref,
et donc,
je
l'ai pas la radio.
Tout le temps. Je sais pas, on va demander les trois sons. Ah, ben, il y a celle-là. Ah, ça, c'est évident.
C'est un combat de chaque jour, en fait.
Elle s'est imposée à ma vie, quoi. Voilà.
Du cinéma pour vous, Patrice Fonseschi. L'arnaque, c'est quoi ? Un autoportrait ?
Non, c'est pour dire une chose. Un précédent roman qui s'appelait L'Imini Monsieur K est un roman philosophique sur le mensonge.
Ouais.
Et je pense que l'on ne sait rien si l'on ne sait pas que l'on vit dans le mensonge et que la vie est tragique. Et l'arnaque, quel grand mensonge, me semblait tout indiqué pour dire cette phrase. Voilà.
C'est parfait. Vous êtes un homme de radio, en fait. Toutes les transitions.
Ah, vous êtes
joueur ?
Avec la vie, oui, complètement. Sur les tapis verts, pas du tout.
Très bien.
Qui m'intéresse, c'est le jeu de... Vous savez, Pindare disait il y a 2500 ans, ce grand poète grec, et philosophe également, disait « Où mon âme n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise le champ du possible. » Et épuiser le champ du possible, c'est d'une certaine manière jouer, mais avec la vie. Avec tout ce qu'elle peut proposer, le reste des jeux n'a à peu près aucun intérêt.
On va prendre le chemin de la mer avec vous tout à l'heure, Patrice Franceschi. On le prend tout de suite avec « Oh, c'est son nom, ce bateau, c'est sa chanson. » Ce bateau signé O alias Olivier Marguerite est arrivé à quai dans le NRV.
Jusqu'où on va ?
Mais jusqu'à la fin du pouvoir.
Ça fait depuis le 25 que je suis là, j'ai pas quitté, je suis pas rentré chez moi depuis le 25.
Le nouveau rendez-vous.
Il n'y a pas de démocratie ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'économie.
On va pas libérer Tahrir Square jusqu'à ce que Moubarak quitte.
ne savent que terroriser le peuple.
Sur France Inter.
La révolution égyptienne en 2011, pour ouvrir ce plateau avec vous, Véronique de Vigré, parce que vous signez les photos d'un reportage dans le L de cette semaine sur des femmes qui aujourd'hui se battent pour leur liberté, 8 ans après la révolution de la place Tahrir. Bilan ?
Ben, c'est pas terrible, ouais. En fait. Vraiment, c'est une chape de plomb qui est sur l'Égypte. Enfin, dès qu'on sort un appareil photo, il y a des policiers en civil qui sortent de partout. Nous, on a passé 8 heures au commissariat. C'est le consul qui a dû venir nous chercher. Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de s'exprimer. C'est vraiment, enfin, les matchs de foot sont joués pas en public. Enfin, c'est vraiment, ouais, tout ça pour ça.
Et les femmes que vous avez rencontrées, quels sont les milieux que vous avez rencontrés? De tout, hein, danseuses,
surtout artistiques, en fait, pour vraiment dire qu'en fait, l'espace public n'appartient plus du tout aux Égyptiens et ne peut plus être utilisé. Donc, on a rencontré des photographes qui disaient que elles peuvent plus prendre des photos dans la rue, une danseuse qui, pareil, disait que en gros, maintenant, elle doit danser, mais à l'extérieur de l'Égypte, des artistes qui peuvent plus du tout exprimer leur art librement.
C'est un pays qui est en guerre de bas niveau, mais qui est en guerre.
Patrice Franceschi, oui.
Vous savez, ces révolutions du printemps arabe, quand on voit ce que ça a aussi donné en Syrie, n'ont évidemment pas répondu aux attentes. Mais il ne fallait pas se faire d'illusions. L'islamisme étant ce qu'il était, dans ces régions-là, les démocrates ne pouvaient pas forcément gagner, surtout avec le poids de l'Arabie Saoudite, de la Turquie ou du Qatar, qui ont tout fait pour qu'on en arrive aux situations que l'on voit. Par contre, pour la situation des femmes, si moi j'observe, pour y avoir participé depuis le début de la guerre en Syrie, chez les Kurdes, s'il y a un endroit où la situation des femmes s'est largement améliorée, c'est chez les Kurdes de Syrie. La parité est une réalité, vous allez partout, il y a un homme et une femme, les partis politiques, les mairies, etc. On verra ce que ça donnera dans l'avenir, mais en tout cas, le laboratoire humain et féministe qu'il y a là-bas, pour l'instant, fonctionne.
Ça, vous confirmez, Véronique de Vigré ?
Est-ce que toutes les guerres ne partent pas à l'émancipation des femmes ?
Ça a été le cas ici en France, notamment.
Exactement. Ouais. Les femmes prennent une place qu'elles ne laissent plus après.
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cas en Égypte ou ailleurs dans le monde arabe. Voilà.
Ouais. Véronique de Vigré, photo-reporter de guerre, ça commence en 2004 en Afghanistan, on en a parlé tout à l'heure. Un reportage qui ouvre d'ailleurs cet album de Reporters sans frontières avec des photos de 2006 à 2014. Vous vous destiniez à couvrir des conflits au départ. Passionné de photos, ça je le sais. Vous avez fait des études de photos d'ailleurs en Angleterre. D'ailleurs, pourquoi en Angleterre? Il n'y avait pas de formation adéquate ici en France?
Parce que après que j'ai dit donc à mes parents que je voulais d'abord être parachutiste et après finalement journaliste et après photojournaliste, ils m'ont dit « Bon écoute, va au moins en Angleterre. Au pire, si t'es pas bonne, au moins t'auras appris l'anglais, ça sera toujours utile. » Donc c'est pour ça.
Vraiment, ça c'est vraiment
pour
les parents.
Pour tout le monde va prendre l'anglais.
Voilà.
Et en fait, c'est une super école, l'école anglo-saxonne.
Ouais, c'était une super école et j'ai appris à parler anglais et c'est très utile. Et j'ai décroché un stage dans un journal local anglais qui m'a envoyé en Afghanistan pour la première fois. Et donc, mon premier pied dans un pays en conflit. Et je sais pas, déjà, je suis tombée vraiment amoureuse de l'Afghanistan. Je trouve que c'est un pays qui est majestueux. Les gens sont très nobles. Enfin, pour un photographe, c'est vraiment un régal. Et dans les conflits, c'est vrai que tout est vachement plus intense et vachement plus extrême. Donc, c'est plus fascinant.
Alors, il y a cet album Reporters sans frontières. Il y a aussi une exposition à Oulgat, le festival Les Femmes s'exposent. Et vous exposez la série Guerre à la drogue aux Philippines. Une guerre menée par le gouvernement dès 2016. Pourquoi l'avoir choisie pour l'exposition à Oulgat? Et elle est aussi, donc, dans cet album, sans photo pour la liberté de la presse.
Parce que je crois qu'on en a pas mal parlé quand ça a commencé, la guerre du président Duterte contre la drogue et qui fait, je sais pas, des milliers de victimes.
Plus de 30 000 victimes.
Ouais, c'est dingue. Déjà. Et on a un peu oublié, c'est un peu oublié aujourd'hui et il faut pas oublier parce que ça continue. Il continue d'avoir des escadrons de la mort qui sillonnent les rues de Manille notamment avec des listes de personnes à tuer parce que soi-disant ils prennent de la drogue ou ils vendent de la drogue. Il y a encore des femmes et des orphelins qui sont faits tous les jours dans cette guerre qui je trouve oubliée.
Et ça a été facile de pouvoir photographier ce conflit en fait parce que c'est un conflit à l'intérieur même d'un pays même s'il est mené par les institutions.
Mais en fait, c'est tellement à un rythme effréné que oui, tous les, enfin, en fait, on se met avec les autres reporters, on est à côté du commissariat et on entend les mêmes GPS que la police quand il y a des corps qui sont découverts, mais il y en a 5, 10, 8, 9 par nuit. Donc en fait, c'est un peu horrible, mais on va de cadavre en cadavre toute la nuit et puis après on retrouve les familles et c'est vraiment morbide.
L'album, donc, c'est l'Afghanistan, la Chine, le Mali, l'Irak après le califat, l'Irak, le Bangladesh, le Yémen. On en parlait hier avec le scandale des armes ici même françaises achetées par l'Arabie Saoudite. C'était le terme du NRV la suite. Il y a aussi le Nigeria sur le delta de l'or noir avec cette photo précisément qui ouvre le dossier. Vous racontez l'histoire de cette photo, ce qu'elle représente à tous les plans. Véronique de Vigrain.
Donc là, on est au Nigeria, dans le delta du Niger, et on est dans la mangrove. Et en fait, il y a une barque avec des combattants qui sont lourdement armés, qui font partie du MEND, le mouvement d'émancipation du delta du Niger, et qui ont pour leader un gros chef qui s'appelle Atteke Tom. Et là, ils sont en train de rentrer dans le camp caché dans la mangrove.
Et qu'est-ce que ce reportage peut dire de la condition des photoreporters femmes dans un pays?
Alors, en fait, à la base, nous, on pensait qu'on allait rencontrer des espèces de Robin des Bois qui attaquent les industries pétrolières pour redistribuer l'argent aux locaux qui subissent la pollution et qui n'ont aucun bénéfice. Et on nous avait un peu prévenu que quand même, notamment quand on y était à ce moment-là, c'était en cessez-le-feu et que ça buvait beaucoup, voilà, ça fumait pas mal et tout ça, et qu'il valait mieux s'éloigner assez rapidement et s'enfermer dans notre case à partir du moment où ça commençait à faire la fête. Et que Atteke Tom avait une réputation très mauvaise d'être un violeur. Et donc, on se retrouve de toute façon dans la mangrove.
Vous êtes deux femmes. Hein.
Deux femmes, avec Manon Kérouille, avec qui la journaliste avec laquelle je travaille depuis maintenant 13 ans. Mm-hmm. Et Atteke Tom a donc la très bonne idée de s'éprendre de Manon, pour ne pas dire quelque chose de grotesque. Et donc là, on s'est dit, bon ben voilà, là nous voilà dans la mangrove. De toute façon, tous les bateaux qui entrent et qui partent répondent aux ordres de Atteke Tom. Donc il va falloir se dépatouiller de ça. Et donc on se dit, bon ben peut-être que le mieux, c'est de dire que, mais en France, on couche pas comme ça le premier soir, on se marie d'abord. Et que donc, ben on est, franchement, Manon est vraiment ravie. Mais bon, ben pour se marier, il faudrait quand même une bague, une robe, et prévenir évidemment nos parents qui seraient enchantés de
ah oui, vous créez toute une fiction,
de cette célébration. Quoi.
Toute une fiction pour éviter un viol, en fait.
Ouais. Exactement. Et donc, Atteke, qui ne doute de rien, dit, bah ok, très bien, demain matin, vous repartez avec un des bateaux qui vous emmènera en ville. Nous file même quelques billets, vous achèterez la robe, tout ça, vos parents, je vous attends dans 3 jours. Et on célèbre ça. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas revenus.
je peux imaginer.
Malin.
Justement, on se demande toujours, quand on est photoreporter, quelle est la distance que l'on doit garder avec ce qu'on photographie. Je vous pose cette question parce que certaines de vos photos, notamment avec les talibans, auprès des talibans, et pas sur les talibans, comme c'était bon nombre pour vos confrères, ont été peut-être mal comprises, mal interprétées ici en France.
Oui, ben avec les talibans, notamment ceux qui étaient responsables de l'embuscade qui a coûté la vie à 10 soldats français en 2008,
ouais.
J'ai été énormément critiquée parce que on m'a accusée de trahir mon pays, parce qu'en fait, on m'a accusée de faire la propagande en fait des talibans. En fait, je pense que la France a à ce moment-là réalisé qu'on était dans une guerre et que c'est vrai. Qu'on fait, à partir du moment où on est embarqué avec un groupe, on fait leur propagande. Évidemment qu'ils essayent de se servir de nous comme un instrument de communication. Personne ne va prendre à bord des journalistes et des photographes si il n'a pas envie de faire passer un message.
C'est une stratégie, oui.
Après, moi, je considère que les prendre en photo, et alors que j'ai pris aussi des soldats de l'armée française et tout, c'est donner une information au lecteur, et de me censurer ou de leur censurer, ça serait éthiquement pas journalistique, quoi.
Vous comprenez cela, Patrice Franceschi ?
Oui et non. Oui, d'un point de vue journalistique, non d'un point de vue du mien, d'engagé. J'ai pas vu les photos en l'occurrence, etc. Mais c'était pas des talibans, c'était des gens de Gulbuddin Hekmatyar dans cette embuscade. Des ennemis de toute façon. Et dans les relations entre Hekmatyar et les autres, bon, c'est un problème très complexe qui nous prendrait trop de temps. Mais il est certain que quand je parlais des dimensions politiques et diplomatiques des guerres, ça rajoute une autre qui est la dimension médiatique, bien évidemment, que vous venez d'évoquer en partie, mais qui dans un monde qui vit dans le mensonge, qui était une de mes réflexions tout à l'heure, où la désinformation, surtout avec les nouvelles technologies et tout, a pris une telle dimension, tout le monde en est conscient, qu'on ne peut plus très bien savoir où est le vrai et où est le faux, ce qui est quand même la discrimination première pour voter, par exemple, utile lors d'une élection ou d'avoir une pensée propre, sont conditionnés par tout cela. Et ce que font les journalistes, vous l'avez très bien dit, si vous êtes avec un groupe quelconque, ils vous acceptent pour faire leur communication. Maintenant, il y a manière et manière de faire.
Bien sûr.
Moi, j'ai connu des gens qui étaient chez des groupes et qui, au retour, bah, communiquaient différemment. Ils ne retourneraient jamais, comme chez votre violeur patenté du Delta, parce qu'ils avaient refusé de jouer à un certain jeu. Bon. Ensuite, des choses qu'on ne montre pas forcément. Et en photographie, c'est très difficile, parce qu'avec le texte, on peut faire ce qu'on veut en photographie. Pour que ça passe, c'est plus compliqué.
Mais justement, est-ce qu'il y a des photographies que vous n'avez jamais voulu montrer, vous, Véronique de Vigry? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne montrez pas?
En fait, moi, à chaque fois, quand je prends des photos, c'est pour faire passer un message. Mais à partir du moment où je prends la photo pour faire passer ce message, non. Après, il y a des choses qui peuvent être montrées de manière subtile ou moins choquante ou voilà. Mais parce que oui, une photo, ça a un pouvoir, donc ça peut être dangereux.
Il y avait dans cette embuscade, je crois me souvenir avoir vu des photos, mais c'est peut-être pas vous, hein, je sais pas, j'ai pas suivi ça complètement, où on voyait des effets personnels des soldats français qui avaient été tués,
oui,
montres, etc.
Une montre,
truc comme ça. Pourquoi faire? Moi, je pense automatiquement aux familles, à la femme du soldat, etc., qui voit ça. Est-ce que c'est une photo utile, par exemple, de la montrer?
Non, mais la montre, j'avoue, mais Paris Match m'avait dit qu'il fallait la photo de la montre pour appuyer la véracité de la chose. Cela dit, la compagne qui a récupéré la montre était très contente de la récupérer.
De récupérer la montre, certainement. Est-ce que le monde entier l'ait vue? J'en sais rien, mais ce sont... Mais non, je pose la question de la façon dont les journalistes rendent compte de quelque chose. Je prends le cas de la bataille de Raqqa, l'été 2017, et je vais être très critique avec les journalistes, là, de 2017 en Syrie, qui était la capitale de l'État islamique en Syrie, etc., où j'ai passé quelques mois. Les journalistes n'avaient pas l'autorisation, pour des raisons de sécurité, de rester à Raqqa la nuit. Donc les FDS les emmenaient la journée et les ramenaient le soir et les ramenaient. C'était des très longs voyages, etc. C'était compliqué. Moi, j'étais à distance de tout ça, mais quand je regardais les résultats de ce qui se faisait et de ce que les journalistes en disaient, ou en tout cas, il y a très peu de photos, mais ils faisaient comme photos, je me disais, je comprends qu'ils ont du mal à travailler. Ils n'ont pas la chance de pouvoir rester en permanence, etc., pour des raisons de sécurité très réelles. Il y avait beaucoup de contre-attaques la nuit, etc. Mais le résultat ne correspondait pas, finalement, à ce que moi qui étais tout le temps là, pouvais voir.
Je m'interrogeais. Le résultat correspondait à ce que eux pouvaient voir.
Non, pas forcément, justement, parce que on ne dit pas forcément à ce moment-là qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Ils n'ont pas le choix, d'ailleurs, souvent, leur rédaction, etc., dit ça. Donc, tout ça pour dire, et je ne leur jette pas la pierre, évidemment, mais pour dire que la communication, la presse, l'information et pas la communication, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus complexe, visiblement, pour les journalistes, et qu'il y a manière et manière de le faire.
Vous confirmez cela, Véronique de Vigry, depuis le départ?
Et selon les journalistes, pour lesquels
moment vous avez commencé, vous?
Oui, il y a des différences, mais surtout, il y a des bons journalistes et des mauvais journalistes, des bons
frères et des
mauvais, des aimables, des mal aimables, enfin, pareil dans les, enfin, je veux dire, dans, partout.
Dans toute la vie, dans tous les milieux.
Exactement.
C'est les dentistes aussi, hein. Je pense que Match, qui demandait la photo de cette montre, je pense que si votre reportage avait été dans Le Point ou un autre, n'aurait pas forcément demandé cette photo. Et que donc, le média avec lequel on travaille a aussi une influence sur la façon de communiquer. C'est tout.
Non, mais Match, par exemple, sur ce reportage-là, ils ont fait 15 pages. Il y a eu les victimes collatérales, des civils, des mères, des enfants qui ont été tués aussi par les bombardements qui ont suivi l'embuscade. Il y avait eu avant des hommages à tous les soldats qui étaient tombés avec leurs familles et tout. Donc non, Paris Match, en fait, c'est un magazine qui est assez complet et qui permet justement de montrer toutes les facettes. Et il y en a certaines qu'on n'aime pas voir, mais elles sont là, elles existent et on les montre.
Sans photo pour la liberté de la presse, album Reporters sans frontières, c'est vous qui signez l'édition, Véronique de Végri. Et puis une exposition, donc les femmes s'exposent à Oulgat du 7 juin au 31 août. Vous restez avec nous, on va parler du chemin de la mer dans quelques instants avec Patrice Franceschi. Eux, ils étaient en concert dimanche soir à l'Olympia à Paris. Ce sera diffusé le 5 juin à 20h sur France Inter. The Raconteurs dans le NRV. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart.
That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time?
Help Me Stranger, premier extrait du nouvel album de The Raconteurs, la programmation au secours de Jean-Baptiste Audibert.
Un new rendez-vous? Non. The new rendez-vous.
Et plateau raconteur, tout de suite avec vous, Patrice Franceschi, déjà pris Goncourt de la Nouvelle en 2015. Ça y est, vous récidivez dans le genre avec Le Chemin de la Mer, 8 nouvelles chez Grasset, qui arrive après votre éthique du samouraï moderne. En quoi vous serez un samouraï
moderne, moderne, c'est le terme qui m'intéresse. Ah ouais. Le livre précédent, il y a 3 mois. Hein.
Bien sûr, ça va vite.
Cette année, ça fait 2 chez Grasset.
C'est beaucoup, quoi.
Les années où j'écris beaucoup et d'autres où j'écris pas du tout.
En quoi vous êtes un samouraï moderne?
Non, je suis pas un samouraï. Le samouraï moderne que je traite dans ce traité d'éthique,
qui est une fiction
moderne, qui est une fiction et dont le sous-titre est essentiel, c'est Petit manuel de combat pour temps de désarroi. Ce qui m'intéresse, c'est le mot éthique, le mot samouraï et le mot moderne. L'éthique, samouraï moderne, pour moi, serait la figure imagée de l'homme libre de demain dont on a besoin pour que l'humanisme ne devienne pas ce qu'il est en train de devenir. Bon, c'était le titre précédent des nouvelles, dernière nouvelle du futur, toujours chez Grasset l'année dernière.
Ah non, parce qu'il produit énormément. Hein. Il voyage, il est engagé auprès des Kurdes, mais alors il n'arrête pas d'écrire. Non,
il y a des années où j'écris beaucoup, et d'autres où j'écris pas du tout. Un écrivain, pour moi, ça doit dire quelque chose. Si ça n'a rien à dire, ça ferme sa gueule. Et dire quelque chose, pour moi, c'est pas simplement, et c'est la haute idée de la littérature, de distraire. Ça doit penser et dire le monde tel qu'il est. Et dans ces nouvelles, oui. Le chemin de la mer, ce qui m'intéressait, c'était de traiter, c'était quelque chose de très important qui rejoint ce que je disais tout à l'heure de Pindare sur la façon d'épuiser le champ du possible. C'est comment sortir de l'étroitesse des possibles de ce qu'il est convenu d'être de la nature humaine. Autrement dit, comment sortir des rails, comment sortir des chemins tout tracés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le sens et la valeur de la vie dans cette affaire-là?
Eh bien, ça, c'est la première nouvelle. Ça s'appelle Le chemin de la mer. Ça s'ouvre sur un type, sur une route du côté de Teriden. C'est où?
C'est un pays imaginaire.
C'est ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc,
globalement, c'est l'Amérique du Sud.
Voilà, quand même.
Et on pourrait même dire que ce pays imaginaire ressemble au Mexique. Voilà.
Un type, donc, qui voyage seul, suivi par un nuage. Un type qui revient systématiquement sur ses traces sans le vouloir et qui repasse par les mêmes endroits, qui revoit les mêmes personnes. Et d'ailleurs, vous le traitez avec le même vocabulaire, les mêmes phrases. Un truc fou. Où va-t-il? Peut-il trouver son chemin, ça sera une métaphore qui va parcourir tout le long de ces nouvelles. Alors je vous pose cette question sur cette métaphore de votre propre parcours, car il y a une autre nouvelle qui m'a intrigué, c'est celle de la fin, bien sûr, c'est un homme devant un mur. Il est prisonnier dans une cage à chiens, où ça?
Alors c'est un autre pays imaginaire, voilà. Mais sud-américain également, il y a des guerriers.
Il y a un tropisme quand même sud-américain, oui.
En tout cas, oui, pas mal à une époque. Ce que je trouvais davantageux chez les révolutionnaires sud-américains, c'était que ils buvaient de la guardiente, ils jouaient de la guitare. Et chez les Afghans, ce que je disais toujours à mes camarades, il y a deux trucs qui manquent chez vous. Pas tellement les femmes, parce que j'ai le droit d'aller au gynécée, etc. Mais c'est la mer. Et puis, boire un coup. Et j'ai choisi dans Un homme devant un mur l'idée d'un révolutionnaire, français en l'occurrence.
Prisonnier, à quelques heures de son exécution.
Et qui doit penser dans cette dernière nuit qui lui arrive, ce qui va lui arriver le lendemain, mais surtout ses camarades, il ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ouais. Et que peut-être ils vont le sauver. Tout avait été prévu pour ça. Et quand il est devant le poteau d'exécution, et je laisse absolument le mystère planer, quand on entend le mot feu, on ne sait pas si c'est le peloton d'exécution qui le tue ou si ce sont ses camarades qui interviennent enfin pour le sauver.
Vous-même, vous avez été prisonnier?
Ça m'est arrivé, ça s'est toujours très bien terminé, puisque je suis là. Mais une fois en Afghanistan, en fait, chez les Pakistanais, enfin, toute une histoire, et les Afghans m'avaient sorti d'un très mauvais pétrin dans lequel j'étais, parce qu'on m'avait capturé avec des armes, avec tous les... avec à l'époque des livrets militaires soviétiques sur moi, que j'avais récupérés, d'ailleurs pour les donner, des soviétiques tués au combat, pour les donner à la Croix-Rouge, pour prévenir les familles, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Mais enfin, tout ça avait été assez gênant, mais bon, tout ça c'est très très loin.
Vous êtes un espion, Patrice Franceschi?
Vous plaisantez.
Sans la question, il n'y aura jamais aucune réponse à ce genre de questions.
D'abord, je sais bien, bien sûr. Mais je me donne à moi-même mes propres missions, c'est ce qui m'intéresse dans l'exercice de la liberté, ce qui était dans l'éthique du samouraï moderne et qui est rien d'autre, à mes yeux, que de penser et d'agir par soi-même.
Voilà. Alors, je voudrais revenir sur ce type, donc, à la fin de ces nouvelles, parce qu'il dit quelque chose qui fait référence, pour moi, à votre propre parcours. Voilà ce qu'il raconte. À 15 ans, quand j'ai voulu être soldat pour que les révolutions m'emportent là où elles changent le monde, mes copains de classe voulaient être commerçants, fonctionnaires, avocats ou des choses comme ça. Déjà, on ne s'entendait pas très bien. Mais eux, aujourd'hui, doivent connaître la paix derrière leur comptoir et leur bureau. J'espère qu'ils sont heureux. Mais peut-on être heureux quand on n'a rien fait qui compte vraiment? Et plus loin, donc, cet homme rappelle son passé et son passé. C'est que déjà très jeune, il avait tenté des fugues. La Guinée, puis plus tard le Brésil. Et quand j'ai regardé votre parcours, je me suis dit que ça faisait écho à ce que vous aviez vécu. Bah, vous aussi des fugues pour le Brésil?
J'ai commencé ma vie par une fugue. J'étais mineur, je savais très bien ce que je voulais faire. C'était la grande chance de ma vie. À 10, 12, 14 ans, je voulais écrire des livres, toutes les sortes de livres possibles et imaginables, et vivre toutes les aventures possibles et imaginables.
Oh, mais vous avez réussi votre vie.
Et tout le monde me disait, en gros, être écrivain aventurier, ça n'existe pas, tu seras ceci ou cela. Et après mon bac, on m'a mis dans des études qui n'étaient pas du tout celles que je voulais, et j'ai décidé de sauter hors des rails, et d'être propriétaire de ma vie, et de prendre tous les risques pour ça. Et ça en valait la peine, donc j'ai fugué, j'ai laissé, truc classique, j'étais mineur, une lettre sur la table de mon oncle, chez qui j'étais à l'époque, et je suis parti. Et je n'avais strictement rien, et je me suis retrouvé en Amérique du Sud, d'abord en Guyane, seul pays où je pouvais aller en tant que mineur à l'époque, puisque c'est un territoire français, coupeur de bois, chercheur d'or et tout ce que l'on veut. Et je suis rentré en France, et puis on a failli me retrouver, donc je suis parti au Brésil, on a failli me retrouver, et je suis parti en Argentine, et je suis rentré en France le jour où, par hasard, c'était pour moi assez marquant, j'arrive à Rosario, en Argentine, à l'Alliance française, je voulais dévorer des livres, des journaux, il y avait des journaux, j'ouvre un truc et j'apprends que je suis devenu majeur, parce qu'un type qui s'appelait Giscard d'Estaing, que je connaissais pas, avait été élu président de la République, et venait de mettre la majorité à 18 ans, et pas 21 ans. Je me suis donc embarqué sur un cargo brésilien, le Petropolis. Je suis rentré en France. je suis allé revoir mes parents. Je dis voilà, ma vie, ce sera ça et rien d'autre. J'étais évidemment très jeune et j'ai continué. J'ai écrit mon premier livre l'année suivante. Et voilà comment les choses m'ont embarqué. Et très vite, il y a eu l'Afghanistan. J'avais 24 ans et la décision de ne pas être indifférent à certaines choses et de m'engager dans les choses qui, à mes yeux, méritaient, révolutionnairement parlant, d'être menées.
Alors, on aura bien compris quand on vous écoute ce que l'on peut lire dans ces nouvelles, notamment l'histoire de ce nain qui est acteur en Espagne. Un nain qui a un rôle minuscule, c'est-à-dire à sa taille dans une pièce de théâtre, et qui va oser, pour pouvoir trouver un rôle à sa véritable dimension, oser un geste qui va tout définir par la suite. Mais il y a une autre nouvelle qui m'a intéressé, Patrice Franceschi, c'est une nouvelle familiale. Trois enfants qui ont des stratégies très inquiétantes pour passer une bonne journée, pour passer un bon dimanche, avec un père qui, comme tous les jours, est sur le point d'exploser, un père tyrannique, dingue, violent, maître d'une maison avec comme signe particulier dans cette maison, les réveils sont interdits, comme les couteaux à pain, ça on peut comprendre le dingue, les tables basses, alors là déjà c'est mystérieux, et les commodes anciennes. C'est quoi ces détails? Alors,
en fait, vous êtes Borges? Non, il faut garder la thématique de ce qui m'intéresse dans ces six nouvelles, qui est comment sortir de l'étroitesse des possibles contenu dans ce qu'il est convenu d'appeler la condition humaine. Autrement dit, on est sur des rails, tous on commence comme ça. Comment, et puisqu'on nous propose, que la vie nous propose, que la société nous propose, que l'histoire nous propose, que le monde nous propose, n'est pas forcément à la hauteur de nos rêves et de ce que l'on veut. Comment en sortir? Là, je prends des cas extrêmes. Père tyrannique, enfants qui en fait potentiellement sont pareils, ce qu'ils vont faire entre les deux garçons et la sœur, en fait c'est la même chose, et qui eux, pour sortir de cette étroitesse des possibles, vont faire des peut-être n'importe quoi. Mais à la fin, ils vont échouer totalement, parce qu'un petit incident dont je ne veux rien dire, il y a la mère qui est présente, fait que tout va échouer. C'est comme Oscar Werner, la mort d'Oscar Werner, où il parle lui-même de sa propre
mort. Oscar Werner est un type qui est renversé par un bus.
Voilà.
Une sorte de Roland Barthes.
Voilà, à Paris.
Qui était renversé par une camionnette.
Et qui, à la fin, il meurt parce qu'il n'a plus rien.
Mais si vous dites toutes les fins, ça va plus aller. Alors, vous savez bien que le miracle d'une nouvelle, c'est la chute.
Non, je ne dis rien.
Vous êtes complètement fou.
Non, je ne dis rien, mais ce qui m'intéresse là, c'est franchement de poser cette question à travers des personnages, des situations radicalement différentes les unes des autres. Il y a des enfants, il y a un nain. Les enfants à Paris, il y a un nain, c'est à Madrid, ouais. Il y a un homme devant un mur, c'est la révolution, allez, dans un pays sud-américain, et puis le chemin de la mer, la toute première, qui est vraiment, c'est une parabole pour moi. Ouais. Finalement, il va quelque part, ce type, tout seul, ça peut être moi, mais ça peut, c'est nous tous en réalité. Et puis, tout est étrange, et puis les choses se répètent, en réalité, comme notre vie. Et puis je dis, ça ne m'intéresse pas, et j'utilise effectivement les mêmes mots.
Les mêmes mots, les mêmes phrases, c'est même pas grave.
Oui, la même chose.
Ah ben, je vois le truc, copier-coller, vous savez, sur l'ordinateur.
Et je veux que le lecteur revienne en arrière, il dit, mais attends, il a déjà écrit.
Et ben, c'est ce qui s'est passé.
Et bien, ça a marché.
Je me suis dit, encore un éditeur qui a pas relu son manuscrit. Voilà.
Et en fait, il dit, ah ben, c'est la même chose, les mêmes villages, les mêmes personnes, les mêmes types sur sa mule, donc je pars à côté, sur un autre chemin, etc. Et puis, il retrouve la même scène. Il sort, et puis il retrouve la scène d'après, il devient complètement fou, il sort encore, et à la fin il s'aperçoit qu'il faut sortir sans arrêt, et de plus en plus des sentiers battus, pour à la fin apercevoir quelque chose. Voilà.
Vous avez aperçu quelque chose, vous, Véronique de Vigré, parce que les sentiers battus, vous les avez évités.
Oui, et parfois c'est vrai que c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Non, mais je pensais à un autre mot, parce que je crois qu'il y a un nouveau mot qui a apparu dans le dictionnaire Larousse, ça s'appelle « divulgacher ». Quand on dit la fin avant la fin.
Le gâcher est intéressant.
Et ben vous êtes vraiment un divulgacheur.
Pour la première fois de ma vie. Monsieur Goumard, est-ce que ce ne serait pas vous qui m'aurez poussé à divulgacher?
Jamais pour dire les fins, jamais pour dire les fins. Vous avez été président de la Société des explorateurs français avec des missions humanitaires. Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement dans...
Ouais. Il y a deux choses. Deux autres vies là-dedans. Il y a l'action humanitaire qui a fait partie de ma vie à une époque. Ouais. Et l'exploration qui est une autre partie. J'essaie de jouer sur plusieurs fronts,
tableaux.
Écoutez, ma vie est aussi courte que la vôtre, a priori, et je ne pourrais pas en avoir 17 ou 20, tel que je l'aurais voulu, tel que chacun l'aurait voulu, donc j'essaie d'en vivre plein en même temps. L'humanitaire, c'est quelque chose. Alors, la Société des explorateurs français, c'est simplement une extraordinaire et digne société d'hommes qui a eu pour président Paul-Émile Victor, qui a eu aussi bien Alain Bombard, Haroun Taziev, Jacques-Yves Cousteau, enfin tout ce qui a compté dans le siècle d'or de l'exploration. Les hasards de la vie ont fait que j'en ai été président pendant un certain nombre d'années et que j'ai vu la fin finalement de ce qu'est vraiment l'exploration aujourd'hui, qui a changé d'échelle, qui a changé de dimension, mais l'exploration humaine est toujours là et elle est aussi passionnante. Quant à l'humanitaire, ça a été une autre partie de ma vie quand j'estimais que...
Ah, vous étiez auprès de Kouchner à un moment donné.
Oui, je l'ai découvert avec Kouchner à 23 ans sur l'île de Lumière, les boats people, etc. Et après, je travaillais pour Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et un tas d'autres. Participer à la création de Solidarité Internationale il y a déjà une trentaine d'années.
En fait, je crois que votre vie était plus longue que la mienne.
Vous savez, le temps, c'est comme un élastique. Il est fait pour être étiré sans cesse et jusqu'à ce que ça casse. Ça qui est intéressant. Ou alors s'arrêter juste avant. Mais il ne faut pas trop s'attarder à vivre. Donc, l'intérêt du temps et de l'aventure, sa fonction, c'est d'étirer le temps comme un élastique.
Dernière question. Pourquoi votre bateau s'appelle La Boudeuse ?
Alors, la jonque La Boudeuse, que j'ai perdue dans un naufrage après des années de navigation en Asie, a été remplacée ensuite par un trois-mâts, qui s'appelle aussi La Boudeuse. Alors, des fois, comme je suis corse, tout le monde me dit « Ah, et la chanson Corse La Boudeuse, t'as appelé ton nom ?» Pas du tout.
Ah, ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était ça.
Je rappelle que le premier Français navigateur et explorateur à avoir fait le tour du monde, c'était Louis-Antoine de Bougainville, et il l'a fait sur une frégate qui s'appelait La Boudeuse. Et que c'était au siècle des Lumières, le premier navigateur, un an avant Cook, qui naviguait, et c'était la première fois, non pas pour des conquêtes militaires ou autres, mais pour la découverte pure, pour la science, le progrès et l'avenir. Donc La Boudeuse, c'est l'esprit de Bougainville dans ses explorations maritimes de La Boudeuse.
Voilà. Et qu'on peut retrouver son esprit dans Le Chemin de la Mer chez Grasset et Éthique du Samouraï Moderne, toujours chez Grasset. Vous restez avec nous tous les deux, Véronique de Vigry et Patrick Franceschi. Tout de suite, on a rendez-vous avec L'Afrique en solo, la chronique sera solo être parmi nous.
Vous pourriez mettre un disque ?
Oui.
Rendez-vous ?
Qu'est-ce que vous voulez ?
Je vais m'en dire des nouvelles de celui-là.
Alors, chaque semaine pour Soro Solo, c'est un pays, une chanson ou un artiste. Ouais. Cette fois-ci, c'est un artiste.
C'est un artiste, effectivement. Qui il s'appelle Jean-Patrick Bimeni et sur son disque, il marque JP Bimeni. Il est burundais et il a fui son pays, il a fui la guerre dans son pays pour s'exiler en Angleterre. Et pendant ses études, il tâte de la guitare, il chante dans les petits clubs de son campus et les bars environnants. Et plus tard, dans ces bars-là, il va reprendre les standards de Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley ou Marvin Gaye. Enfin, tous les soul singers. Et puis, après son diplôme d'économie politique, il choisit finalement de devenir musicien. Et, tenez-vous bien, c'est pas en Angleterre, mais c'est en Espagne, dans la ville d'Avilés, qu'il décroche le jackpot où il enregistre Free Me, son premier album très marqué soul music. Et l'album Free Me de Jean-Patrick Bimeni et The Black Belt comporte 10 compositions.
Ça nous change de la chanson sur l'Europe de tout à l'heure, de la chanson de mon fils Véronique Zédigri. Alors, il vit à Londres. Comment il s'est retrouvé en Espagne pour produire cet album ?
Eh bien, Jean-P ou JP Bimeni a tourné dans pas mal de petits clubs sur le campus et à Londres. Et l'un de ses groupes s'était spécialisé dans les reprises d'Otis Redding, un des groupes avec lesquels il a joué. Et puis un jour, JP Bimeni débarque avec ce dernier groupe-là dans un festival dans la ville de Avilés où il rencontre les producteurs du groupe, justement, The Black Belt. Et ces derniers lui proposent d'intégrer le groupe.
J'arrive et il y avait tout un tas de chansons. Ils me disent, on aimerait travailler avec toi dans n'importe quelle condition. Tu veux écrire, on est là. Tu aimes des chansons qu'on a écrites, et tu veux changer ça et ça, tu peux faire. Il y avait Better Place, je dis, j'aime ça beaucoup, j'étais libre, écris quelque chose. Et d'un coup, j'écris juste la chorus, et j'ai oublié que je n'ai pas encore fini la chanson. Et le jour d'enregistrement de l'hôtel au studio, il y avait 20 minutes, et j'écris dans le taxi. Que j'arrive au studio, je me dis, ouais, c'est parfait, on est. Can make a better place. Voilà, Better Place de JP Bimeni et de Black Belt. Et comme on le constate, les rythmes classiques sont inspirés des sons des labels afro-américains comme la Motown, la Stax. Et Jean-Patrick Bimeni imprègne ses récits aussi de tout l'amour qu'il aime partager, mais aussi du passé douloureux de la guerre dans son Burundi natal. Et Free Me pourrait être entendu un peu comme la bande-son de sa vie.
Question is, what is happiness? Spend a lot of time
bien, merci Soro Solo. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Merci Véronique de Vigry. Merci Patrice Franceschi. Merci. Car vous l'avez compris, le NRV première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes, après le journal, avec ça. Animation française. Pas si minuscule quand on regarde ce qu'on a eu au Festival de Cannes, c'est pas si mal. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.